Yasmine Abdel Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
Plus de 2,3 millions de Québécois n'ont pas de médecin de famille. Imaginez une situation qui risque de devenir de plus en plus difficile, de plus en plus aiguë, parce que, imaginez-vous, les médecins aussi vieillissent. Les médecins aussi, ça vieillit. Et ça finit par vouloir partir à la retraite et ça finit par aller à la retraite plus souvent qu'autrement à la fin d'un calendrier civil, donc autour du mois de novembre-décembre, ce qui fait en sorte d'envoyer plusieurs dizaines de milliers de Québécois sur les listes d'attente pour avoir un médecin de famille. On en parle avec Dr. François-Pierre Gladu, membre du conseil d'administration de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et qui est aussi médecin de famille à Montréal. Bonjour, Dr. Gladu.
Bonjour, Mme Talfadel.
On a vu les chiffres, les données qui ont été publiées ce matin par nos collègues du Journal de Montréal, Journal de Québec. Le vieillissement de la population, là, c'est pas quelque chose qu'on est capable de régler en un temps, trois mouvements. Dites-moi, est-ce qu'on a assez de médecins de famille au Québec?
Bon, on estime qu'entre 1200 et 1500 médecins qui manquent pour répondre aux besoins de la population. Et comment on sait ça? Bien, c'est qu'on regarde le nombre de médecins d'abord, mais après ça, leur proportion de travail à l'hôpital, et donc qui n'est pas en première ligne. Et ça, au Québec, on est un petit peu unique au Canada. On a beaucoup plus de travail en deuxième ligne à l'hôpital que dans le reste du Canada. Donc, ça voudrait dire que pour avoir le nombre de soldats, de mains, de bras qu'on a nécessaires en cabinet, on a besoin d'un petit peu plus de médecins par habitant.
Expliquez-moi, là, donnez-moi une journée typique, là, disons la plus typique d'un médecin de famille. Il travaille quoi? C'est quoi sa charge? Combien de patients il voit? Puis ensuite, il travaille où?
En fait, la plupart du temps, les médecins vont faire la navette entre l'hôpital et le cabinet. Donc, c'est souvent des demi-journées au cabinet suivies de l'hôpital qui va se continuer jusque tard le soir. Ça, c'est sans compter les gardes de soir, de nuit, de fin de semaine. Et donc, généralement, dépendant que si un médecin est uniquement au cabinet versus à l'hôpital et au cabinet, bien, son nombre de patients en cabinet va changer, évidemment. Mais une journée de médecin, là, grosso modo, ça va aller entre 20 et 40 patients par jour.
Combien de patients un médecin de famille peut-il prendre sous son aile, tu sais, qui deviennent officiellement leur médecin de famille? Je parle pas de ceux à qui on va donner des services en son rendez-vous, par exemple.
Ouais. Pour que ça soit équilibré, là, normalement, un médecin à temps plein au cabinet va avoir environ 1000 patients. Ça, c'est dans l'état actuel des choses. En ce moment, dans notre bureau, on voit beaucoup de cas, beaucoup de problèmes qui ne sont pas du ressort du médecin de famille. Notre expertise devrait être réservée au diagnostic et au traitement, mais on se trouve à répondre à des besoins de patients qui auraient besoin, par exemple, d'un physiothérapeute, d'un optométriste, d'un psychologue, dépendant du type de problème. Mais comme ces professionnels-là ne sont pas remboursés par l'État, bien, par la force des choses, les gens reviennent vers le cabinet du médecin de famille, ce qui alourdit beaucoup la tâche. Et évidemment, ce qui rebute un peu la relève, hein, c'est un petit peu ça le problème. Là. La relève voit bien ça, puis ils se disent, j'ai pas étudié pour faire le rôle de l'optométriste ou du physio ou du psycho. Même si les gens ont toujours une bonne volonté, quand ils regardent l'ensemble de la carrière, ils disent, c'est pas tout à fait bien organisé ici.
Il y a quelques semaines, la FMOQ, dont vous êtes administrateur, a envoyé une mise en demeure au ministre Dubé pour finalement contester la manière avec laquelle l'imposition de prise en charge de plus de 13 000 patients a été faite. Est-ce vraiment la bonne manière de parler avec le gouvernement pour essayer de faire sortir et de sortir de cette crise nationale en matière de santé, Dr. Gladu?
Oui, je vais vous mettre certains éléments de contexte. Alors, la réponse est non, bien évidemment, mais je vais vous expliquer pourquoi. Les 13 000, ça a l'air, premièrement, là, que c'est vraiment 10 000, parce qu'ils ont eu une erreur de 3 000. Mais même 10 000, c'est un trop. Mais il faut vous rendre compte là, qu'on a à peu près 6 000 médecins en cabinet. Si le ministre est capable de nous donner la liste des noms à prendre en charge, c'est 1 à 2 patients de plus par médecin, alors qu'on en a au-dessus de 1 000 chacun. Alors, c'est ridicule. Ça fait un mois qu'on attend la fameuse liste, et le gouvernement n'est pas capable de nous la donner pour qu'on puisse régler ce problème-là. Parce que, bien entendu, quand il y a des gens vulnérables, on veut les voir. C'est eux qui nécessitent notre expertise, notre diagnostic et notre traitement. Alors, bien sûr qu'on ne va pas s'empêcher de les voir. Pour vous donner un exemple, sur une clientèle typique de 1 000 patients pour un médecin de famille, il y en a 40 à 45 % déjà qui sont vulnérables. Alors, ça change quoi, un ou deux patients de plus?
Mais alors, pourquoi la mise en demeure dans ce cas-là?
Ben, c'est justement, c'est qu'à chaque fois que le gouvernement a un problème, au lieu de venir discuter du problème et qu'on trouve une solution de manière conjointe, il écrit une loi. Et quand, dans ce cas-ci, c'est la loi 11. Et évidemment, ce n'est pas la bonne manière de faire. Qu'est-ce que vous pensez que ça envoie comme message aux étudiants en médecine? À chaque fois qu'il y a un problème dans le réseau de la santé, on fait diversion, on écrit une loi, la loi 20 en 2015, la loi 15 il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, et là maintenant la loi 11. Alors évidemment, il n'y a pas ça nulle part ailleurs au Canada. Et les étudiants, ils regardent ça et ils disent, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je vais m'en aller dans ce bourbier-là, moi? Alors évidemment, il y a de plus en plus de jeunes. Il y en a 600 dans les 10 dernières années qui ont dit non, moi je ne rentre pas dans la spécialité. Au moment même où la médecine familiale aurait eu vraiment besoin de toute la relève disponible, parce qu'à chaque fois qu'on a un médecin de plus, bien, c'est 1000 patients de plus qui est pris en charge.
Parlons des médecins, d'ailleurs, des facultés de médecine. Trouvez-vous qu'il y a assez de facultés de médecine au Québec? Est-ce qu'on n'a pas un problème de capacité également de bras, de besoin de bras, de cerveau, de médecins pour dégager finalement du temps pour du travail en clinique?
Dans l'état d'organisation actuel au Québec, la réponse est clairement oui. Mais ce n'est pas seulement le fait d'ouvrir des places d'étudiants en médecine qui importe, parce qu'en ce moment, au Québec, on vit quelque chose de particulier, alors que dans le reste du Canada, on a toujours la dyade, un médecin de famille, un médecin d'une autre spécialité, et ça, c'est respecté depuis 60, 70 ans. Ça amène un équilibre dans la prise en charge des patients. Et au Québec, maintenant, il s'est creusé un écart de 1100 médecins de d'autres spécialités, davantage que de médecins de famille depuis 20 ans. Autrement dit, même si on augmente le nombre d'étudiants en médecine, les étudiants en médecine ne choisissent plus la médecine familiale. Et c'est ça le problème qu'on doit régler. Il faut utiliser tous les moyens possibles à la disposition du gouvernement pour rendre la profession attrayante avant que les vagues de retraite n'augmentent. Parce que c'est ça qui nous guette. Le quart des médecins de famille au Québec ont plus de 60 ans. Alors, il ne faut plus attendre. Il faut qu'on ait davantage d'étudiants qui choisissent la médecine familiale.
Mais ce n'est pas non plus le rôle de la FMOQ que de faire la promotion de la médecine familiale dans les facultés de médecine pour que de plus en plus d'étudiants en médecine là, du tronc commun choisissent la médecine familiale, parce qu'il y a aussi des avantages de la médecine familiale, la conciliation travail-famille, la durée des études, la stabilité. Il y a aussi des avantages qu'on n'entend pas très souvent non plus.
Alors, je vais retenir que la résidence de 2 à 3 ans est plus courte que dans d'autres spécialités. Pour le reste, la conciliation travail-famille, ça fait longtemps qu'elle a pris le bord en médecine familiale. Entre l'hôpital, les accouchements et le travail en cabinet, disons que la pénurie se fait sentir sur les épaules des médecins de famille qui restent en cabinet. Par contre, est-ce que vous dites que la FMOQ, l'association des médecins a un rôle à jouer pour attirer davantage la relève, bien sûr, et ça fait plusieurs années qu'on va rencontrer les étudiants dans les facultés de médecine pour les encourager à venir rejoindre la plus belle profession du monde. Mais pour vous donner un élément de contexte à nouveau, il y a 52 % des services médicaux au Canada qui sont donnés par les médecins de famille, puis la médecine familiale reçoit 5,7 % du budget de la santé. Alors, ça a beau être la plus belle profession du monde, mais il faut lui donner les moyens de rendre les services à la population, et parfois, ça passe par des services par quelqu'un d'autre qu'un médecin de famille, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, le psychologue pour, par exemple, un burn-out, le physiothérapeute pour un mal de genou, l'optométriste pour un œil rouge. Alors, c'est des exemples de conditions de santé qui ne nécessitent pas que le patient vienne voir le médecin de famille en premier.
Oui.
Peut-être, après que l'autre professionnel n'a pas réussi à régler le problème, là, on peut escalader et aller plus loin.
On est plusieurs Québécois aussi à avoir un médecin de famille, mais on sait qu'on est inscrit sur sa liste, mais on ne le voit pas régulièrement, on ne le voit pas quand on a besoin de le voir. Et on finit toujours aussi par aller aux urgences parce qu'on a une urgence et qu'on ne peut pas tomber sur un rendez-vous avec notre médecin de famille. Docteur Gladue, la question que je me posais, c'est qu'on nous dit depuis plusieurs années la question de la santé puis des médecins de famille, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait des années qu'on nous dit, les médecins, ils quittent vers l'Ontario parce que c'est plus intéressant. Parfait, les salaires ont été augmentés des médecins omnipraticiens. Visiblement, ça n'a pas fait l'effet escompté. Réforme Barrette, vous allez voir, ils vont en prendre plus de patients. Je sais pas si, peut-être c'est une impression que j'ai, là, j'ai pas les données, mais j'ai pas l'impression que tout d'un coup, ça s'est réglé comme une baguette magique. Christian Dubé vient exactement avec la même promesse. Qu'est-ce qu'il faut offrir aux médecins omnipraticiens pour qu'ils prennent plus de patients et qu'on développe une meilleure manière de gagner finalement en efficacité et en efficience?
OK. Il y a deux aspects à cette question-là. Premièrement, pour qui a accès à un médecin de famille? Alors, en ce moment, il y a 84 % de la population qui a accès à un médecin de famille et il y a 7 % qui est en attente sur le guichet d'accès.
C'est beaucoup.
Le guichet d'accès est passé de 950 000 personnes en 2022 à 650 000 maintenant. Donc, depuis 2 ans, ce qu'on appelle l'inscription collective a permis d'inscrire un grand nombre de personnes. Et souvent, quand on les voit en inscription collective, quand il y a un besoin, bien, le médecin de famille va le prendre en inscription individuelle en plus. Et en plus du 84 % qui en a un, 7 % qui en cherchent un, bien, il y en a 10 % qui n'en ont pas besoin, qui n'en cherchent même pas parce qu'ils ont 22 ans, 23 ans, c'est des jeunes hommes, sont en forme, ils n'en ont pas besoin. Autrement dit, 84 % qui en ont un sur 91 %, c'est quand même très bien. Mais ce n'est pas parfait, puis on veut suivre tout le monde maintenant. Comment y arriver? Comment rendre cette profession-là attrayante? Il y a plusieurs aspects. D'abord, il y a le travail hospitalier supplémentaire qu'on a au Québec, qu'il n'y a pas dans le reste du Canada. Ça, définitivement, c'est un irritant pour la relève qu'il faudrait régler. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut le régler. La charge administrative. Il y a 20 % du temps du médecin de famille qui sert à remplir des formulaires pour le gouvernement,
oui,
en grande partie.
Pas d'allure.
Alors ça, bien sûr, c'est 20 % de plages de rendez-vous qui ne sont pas données, qui sont utilisées à faire de la paperasse pour répondre aux fonctionnaires. Troisièmement, il y a les écarts de rémunération avec les autres spécialités. C'est sûr que quand vous regardez une carrière de 30 ans, bien, pour les étudiants, c'est un facteur à considérer. Maintenant, vous faites référence à l'augmentation des revenus en médecine de pratique en médecine familiale. Ça, je dois vous corriger, quand ça a été négocié il y a 10 ans et plus, c'est la Fédération des médecins spécialistes qui a ramassé l'argent. Ça n'est pas allé vers les médecins de famille. Et c'est pour ça que l'écart...
Mais il y a eu tout de même un rattrapage en médecin de famille. C'est pas vrai qu'il n'y a rien eu.
Non, il n'y en a pas eu. L'écart s'est augmenté justement suite aux années Barrette. Alors, bien évidemment. Alors, c'est ça qu'il faut régler en partie, mais ce n'est pas juste ça. Alors, il faut régler l'ensemble, la charge administrative, les lois une par-dessus l'autre, oui, les contraintes à l'installation de la pratique et les écarts de rémunération. Et il faut qu'on utilise toutes ces armes-là, ces outils-là, pour renverser la pénurie qui permettent de combler les retraites qui augmentent d'année en année.
Et c'est tout un défi. Dr. François-Pierre Gladue, membre du conseil d'administration de la FMOQ, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Au plaisir.
Au revoir.